Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le geste est inédit. Des joueurs de football en Europe quittant la pelouse d'un match après des accusations de racisme portées à l'encontre du quatrième arbitre. Cela s'est passé hier soir et cela provoque depuis une pluie de réactions sur le racisme dans le milieu du football, vous l'entendrez. Nous nous pencherons ensuite dans cette édition sur le projet de loi du gouvernement français qui vise à lutter contre l'islamisme radical. Emmanuel Macron voulait notamment interdire l'école à la maison. Le texte finalement est plus souple. Un dispositif de fichage plus performant pour la police. 3 décrets le permettent dans le pays depuis vendredi. Nous tenterons de comprendre ce qu'ils disent. Et puis nous irons en Pologne où un groupe de presse vient d'être racheté par un géant de l'énergie très très proche du pouvoir en place. Et l'on commence donc par une image inédite dans le football européen. 2 équipes qui quittent un terrain en plein match, refusant de jouer après des propos racistes de la part du quatrième arbitre, arbitre sur le bord du terrain. Le match de Ligue des Champions opposait hier le Paris Saint-Germain au Başakşehir Istanbul, français contre turc donc. Retour sur ce match avec Cédric Guillou.
La rencontre a dégénéré à la 14e minute de jeu lorsque l'entraîneur adjoint du Başakşehir Istanbul, Pierre Webo, ancien international camerounais, a laissé éclater sa colère. Colère encore plus audible dans un stade à huis clos. Il m'a traité de noir, dit-il en parlant du quatrième arbitre qui venait de signaler un fait de jeu à l'arbitre central. Les joueurs des 2 équipes se sont alors regroupés près de la zone technique turque. Des échanges, des discussions, sans issue. Les Stambouliotes ont pris la direction du vestiaire 10 minutes après, rapidement suivi par les joueurs du Paris Saint-Germain. Eric Rabessandratana, ancien joueur du PSG, était au Parc des Princes hier soir.
On voit l'envergure et l'importance de cette réaction des joueurs. C'est quand même une fierté de voir qu'on avance de ce côté-là. On ne subit plus le racisme, on se bat contre. Et il y a une réaction très positive des 2 équipes et c'est ce que j'ai envie de retenir.
La rencontre reprendra ce soir, là où elle s'est arrêtée. Après 14 minutes de jeu.
Et le président de SOS Racisme s'exprime également. J'espère que cette réaction des joueurs va inaugurer une ère nouvelle de lutte contre le racisme au sein du football, a dit Dominique Sopo. Quand le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est très proche du club Stambouliot, demande lui une enquête de l'UEFA, l'instance européenne du football a effectivement ouvert cette enquête hier soir. Le gouvernement l'a longtemps appelé projet de loi de lutte contre le séparatisme, puis de lutte contre les séparatistes. Emmanuel Macron dit de lui qu'il vise à lutter contre le séparatisme islamiste. Et c'est finalement le projet de loi confortant le respect des principes de la République qui est présenté ce matin au Conseil des ministres pour le 115e anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité. Ce texte prévoit notamment la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui si l'on diffuse des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne qui pourrait permettre de l'identifier ou de la localiser dans le but de l'exposer, je cite, à un risque immédiat d'atteinte à la vie. Pensée évidente avec ce texte à Samuel Paty, professeur des Yvelines, visé sur les réseaux sociaux, puis assassiné par un terroriste à la mi-octobre. Dans le texte également, on trouve plusieurs articles qui concernent l'école. Il y a la scolarisation obligatoire des 3 ans et donc la limitation de l'instruction à domicile, accusée par le gouvernement de cacher parfois des dérives séparatistes. L'article a quand même été revu et corrigé après les critiques du Conseil d'État, Alexis Morel.
Un encadrement très fort plutôt qu'une quasi-interdiction. Tout en affirmant que la règle générale, c'est l'inscription à l'école, le projet de loi comprend noir sur blanc une série de dérogations à ce principe. L'instruction à domicile restera possible pour des motifs de santé, pour les sportifs de haut niveau, et aussi, c'est nouveau, pour d'autres situations particulières non précisées, mais seulement avec l'autorisation de l'administration. Jusque-là, les parents devaient simplement déclarer ce choix. Désormais, ils devront demander l'autorisation et surtout justifier cette demande dans un dossier. Ce n'est donc pas la fin de l'instruction à domicile, mais le ministère assume de vouloir réduire le nombre d'enfants concernés, 62 000 aujourd'hui, d'où la colère de ces familles, pas rassurées du tout par cette réécriture de l'article. L'autre disposition concerne les écoles hors contrat. L'État pourra fermer administrativement, donc plus rapidement, une école qu'il juge séparatiste. Les contrôles seront aussi renforcés sur les financements et le personnel.
Nous reviendrons sur cette question de la laïcité en France et de l'éducation à la maison dans le journal de 7 heures sur France Culture dans moins d'une demi-heure. Et puis sachez que dès 7h40, une discussion s'ouvrira sur l'histoire de la laïcité en France. Avant cela, arrêtons-nous à 6h35 sur un autre texte de loi peu discuté car passé inaperçu. Trois décrets publiés vendredi au Journal officiel élargissent significativement le champ des possibles de la police pour ficher les citoyens et les associations. Concrètement, les agents peuvent désormais ficher plus de gens, récolter plus d'informations et le faire dans plus de situations. Un pas supplémentaire vers une surveillance généralisée de la population, selon Nathalie Martial, elle est professeure de droit civil à l'Université Paris-Descartes.
Le seul fait, par exemple, d'être immatriculé au fichier d'immatriculation des véhicules fera qu'il y a une présence dans un des fichiers. Le croisement, parce que, par exemple, vous aurez été manifesté, je reprends la manifestation de sécurité globale, qui permettra de faire un croisement et donc tout simplement d'offrir à la police la possibilité d'enquêter sur cet individu, de tirer des informations, par exemple, de la présence de cette personne lors de cette manifestation. Alors ensuite, si évidemment la personne n'est pas susceptible de rentrer ou de tomber sous le coup d'une infraction, ce croisement et cette information n'aura pas d'incidence particulière pour lui. Simplement, ça accroît finalement la possibilité de ficher la population et donc de créer des fiches de personnes qui seraient susceptibles de relever des fichiers de police et donc d'avoir une présence dans ces fichiers. Et à terme, plus vous avez une présence, plus on pourrait imaginer que celle-ci est considérée comme étant suspecte ou en tout cas susceptible d'ouvrir à des enquêtes. En soi, il n'y aurait pas de difficulté à l'admettre quand, encore une fois, vous êtes sur de la poursuite d'infraction ou qu'il y a une menace imminente à l'ordre public. Le problème, c'est que par l'accroissement des pouvoirs que ça génère, il y a un risque que ça soit utilisé dans des situations qui ne sont pas soit spécifiquement menaçantes, soit à l'égard de gens qui sont spécifiquement radicalisés. Donc ça accroît la surveillance globale de la population.
C'était Nathalie Martial, spécialiste des questions des données personnelles, interrogée par Laura Dulieu pour France Culture. 4 en ferme, dont 2 avec sursis, ce sont les réquisitions faites hier au tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy, l'avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert sont tous les trois poursuivis pour corruption et trafic d'influence. Les plaidoiries de la défense débutent aujourd'hui. Devant la cour d'assises spéciale de Paris maintenant, on juge les complicités pour les attentats de janvier 2015 ont été requis contre les 14 accusés entre 5 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité. La France aura un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire pour succéder au Charles de Gaulle et ce à l'horizon 2038. Emmanuel Macron l'a annoncé hier en visitant le site industriel de Framatome au Creusot. Et c'est un saut de génération qui s'opère, Bertrand Galichet.
Maintenir la capacité de la France à intervenir sur des théâtres d'opérations lointains et surtout conserver les compétences en matière de réacteurs embarqués, c'est ce qui a déterminé le choix de la propulsion nucléaire pour le futur porte-avions. Cet arbitrage stratégique promeut une filière également indispensable aux sous-marins nucléaires français dans le cadre de la politique de dissuasion. Un navire massif, 75 000 tonnes, 300 mètres de long, capable d'embarquer 2000 hommes d'équipage, des drones et 30 avions du système de combat aérien du futur, lancé par des catapultes électromagnétiques. La construction débutera dans 5 ans au chantier naval de Saint-Nazaire. Considéré comme une arme de projection de puissance, le nouveau porte-avions qui sera mis en service en 2038 pourrait coûter jusqu'à 7 milliards d'euros. Sa durée de vie est estimée à une quarantaine d'années. Il est censé remplacer le Charles de Gaulle au moment où celui-ci arrivera en fin de carrière. Mais certains dans la marine voudraient que la France se dote à nouveau de 2 porte-avions, comme à l'époque du Foch et du Clémenceau.
Partons maintenant en Pologne où le géant de l'énergie polonais Orlen, contrôlé par l'État, a racheté un grand groupe de presse dans le pays. Rachat qui inquiète les ONG et l'opposition, Sarah Bakaloglu.
L'annonce du rachat de Polska Press a été abondamment commentée par la presse polonaise cette semaine, car ce groupe est l'un des plus grands du pays, avec une audience très large. Il possède 20 des 24 quotidiens régionaux en Pologne, plus d'une centaine de magazines et autant de sites internet. Aux capitaux allemands vont donc succéder des capitaux polonais. Un investissement purement économique, jure le géant de l'énergie Orlen. Les députés du parti Droit et Justice au pouvoir ont salué la repolonisation du groupe Polska Press. Limiter, voire écarter les capitaux étrangers des médias en Pologne est un objectif affiché du gouvernement depuis 2015, pour qui c'est une question d'objectivité de la presse. Les médias à capitaux allemands ont souvent été accusés par le gouvernement d'attaquer le pouvoir en place et d'influencer les affaires internes de la Pologne. Sauf que pour l'opposition du pays, ce rachat par une entreprise contrôlée par l'État n'a rien à voir avec un investissement économique, mais c'est une manœuvre du Parti conservateur Droit et Justice, le PiS, pour renforcer sa mainmise sur les médias privés. Le chef du principal parti d'opposition, la Plateforme Civique, a d'ailleurs dénoncé un assujettissement des médias et la construction d'une machine de propagande. Selon la Société des journalistes, les titres de presse rachetés vont devenir la voix du parti au pouvoir, comme l'est déjà la télévision publique du pays, écho du discours de haine gouvernemental selon Reporters sans frontières.
Sarah Bakaloglou pour France Culture. Rapidement, la météo du jour en France métropolitaine, de la neige à l'est et sur les Pyrénées, de la grisaille au centre et de la pluie à l'ouest. Il fait entre 1 et 8 degrés du nord au sud. Il est 6h04.